Chapitre 10. Retour à la maison. La propriété des Vestrites, comme les maisons des autres négociants, était située au pied des collines fraîches et boisées qui ceignaient la ville. Depuis les quais, le trajet en voiture était bref. À pied, quand il faisait beau, la promenade était agréable. En chemin, on entrevoyait les maisons pimpantes des marchands, bien en retrait de la route principale. Althea longea des haies fleuries et des allées plantées d'arbres aux pousses printanières d'un vert extravagant. Un manteau de lierre recouvrait le mur de pierre des Osvelles. Des colonies de jonquilles d'un jaune frais montraient leurs premières collerettes à leur portail. L'air résonnait de chants d'oiseaux, embaumait les fleurs précoces et l'ombre des arbres aux feuilles nouvelles se mouchetait de lumière. Le chemin ne lui avait jamais paru si long. Elle marchait à grands pas, comme si elle allait à sa mort. Elle portait toujours son costume de mousse. Il leur avait semblé à tous plus sage qu'elle conservât son déguisement pour quitter les quais. Comment sa mère et sa sœur réagiraient-elles? Kyle n'était pas rentré. Le soulagement ressenti à cette nouvelle avait presque égalé la déception de ne pas voir Vivacia dans le port. Au moins, elle n'aurait pas à affronter l'hostilité de son beau-frère. Cela faisait presque un an qu'elle s'était querellée avec lui et qu'elle avait quitté, furieuse, le toit familial. Elle avait tant appris depuis. Elle avait l'impression que 10 ans s'étaient écoulés. Il fallait que sa famille admît qu'elle avait grandi. Mais elle craignait qu'on ne remarquât que ses vêtements et sa tresse huilée et qu'on considérât son accoutrement comme une mascarade provocante et infantile. S'il fallait en croire sa mère, elle était une forte tête. Durant des années, sa sœur Kefria l'avait accusée de déshonorer à plaisir sa famille. Comment, habillée de la sorte, pouvait-elle les convaincre qu'elle avait mûri et qu'elle était digne de prendre le commandement de la vive nef? Comment allait-elle l'accueillir? Avec colère, froideur, mépris? Elle secoua violemment la tête pour chasser ses pensées et s'engagea dans la longue allée qui menait à la maison. Elle remarqua avec un certain agacement que les rhododendrons près du portail n'avaient pas été pincés. Les pousses allongées du printemps dernier arboraient maintenant des bourgeons gonflés de sève. La prochaine taille leur ferait perdre une année de floraison. Elle éprouva une pointe d'inquiétude. Cole, le jardinier, était très pointilleux là-dessus. Lui était-il arrivé quelque chose? Le long de l'allée, tout le jardin trahissait l'abandon. Les vivaces avaient poussé à la diable et débordaient des plates-bandes. Les bourgeons verts vifs des rosiers se défroissaient sur les rameaux de l'année précédente, noircis par l'hiver. La glycine, détachée de son treillis, ouvrait vaillamment ses feuilles là où elle s'était étalée. Les vents d'hiver avaient amassé des feuilles mortes à leur gré et des branches cassées par les tempêtes jonchaient le sol. Elle s'attendait presque à trouver la maison abandonnée, à l'instar du jardin. Mais les fenêtres étaient grandes ouvertes sur l'air printanier. Les sons joyeux d'une harpe et d'une flûte cascadaient à sa rencontre. Plusieurs cabriolets stationnés devant la porte lui indiquèrent qu'une réception avait lieu. Réception pleine de gaieté, à en juger par les éclats de rire qui se mêlaient à la musique. Althea fit un détour par l'entrée de service, plus étonnée à chaque pas. Il n'y avait pas eu de réception à la maison depuis la maladie de son père. Cela signifiait-il que sa mère avait déjà quitté le deuil? Voilà qui ne lui ressemblait guère. Althea ne l'imaginait pas davantage gaspiller de l'argent en fête alors que la propriété était à l'abandon. Elle n'y comprenait goutte. Elle fut saisie d'un mauvais pressentiment. Par la porte ouverte de la cuisine s'échappait dans l'air printanier l'odeur appétissante de pain chaud et le fumet des viandes. L'estomac d'Althea se mit à gargouiller. Du pain au levain, de la viande et des légumes frais. Elle conclut brusquement qu'elle était heureuse d'être chez elle, quel que soit l'accueil qu'on lui réserverait. Elle pénétra dans la cuisine et regarda autour d'elle. Elle ne reconnut pas la femme qui abaissait la patte sur la table, ni le gamin qui tournait la broche. Le fait n'était pas inhabituel. Les serviteurs changeaient souvent chez les Vestrites. Les familles de marchands se volaient mutuellement les meilleures cuisinières, nounous et valets en les alléchant avec des promesses de gages et de logements plus avantageux. Une jeune servante entra avec un plateau vide, qu'elle posa bruyamment, puis elle s'en prit à Althea.
« Qu'est-ce que tu veux ? »
demanda-t-elle d'une voix froide et lasse. Pour une fois, la tête d'Althea fonctionna plus vite que sa langue. Elle esquissa une courbette.
« J'ai un message du capitaine Ténira de la vive nef Ophélie pour la marchande Ronica Vestrit. C'est important. Il m'a demandé de lui remettre en privé. »
Voilà. Cela lui permettrait d'être un peu seule avec sa mère. S'il y avait du monde à la maison, elle ne voulait pas être vue habillée en garçon.
La servante eut l'air troublée.
« Elle a des invités en ce moment. Des invités de marque. C'est une réception d'adieu. C'est gênant de l'interrompre, »
dit-elle en se mordant la langue.
« Le message ne peut vraiment pas attendre, le temps que tu avales un morceau, peut-être, »
ajouta-t-elle en souriant pour la tenter. Althea se surprit à hocher la tête. Le fumet des plats lui faisait venir l'eau à la bouche. Pourquoi ne pas manger ici, à la cuisine, et affronter sa mère et sa sœur l'estomac plein ?
« Le message attendra un peu, je crois. Je peux me laver d'abord les mains ?»
demanda Althea en indiquant la pompe de la tête.
« Il y a une pompe et une auge dans la cour !»
intervint la cuisinière, remarque qui rappela brutalement à Althea son faux statut. Elle sourit pour elle-même puis sortit se laver. Quand elle revint, une assiette garnie l'attendait.
On ne lui avait pas servi des morceaux de choix, l'entame croustillante d'un rôti de porc et les croûtons du pain chaud. Il y avait aussi une tranche de fromage jaune et un bon morceau de beurre fraîchement baratté, une cuillerée de confiture de cerise, le tout servi dans une assiette ébréchée avec une serviette tachée. Un mousse était censé ignorer le raffinement des couverts. Aussi dut-elle se contenter de ses doigts perchés sur un haut tabouret dans un coin de la cuisine. D'abord, elle dévora, en ne pensant qu'au repas qu'elle avait devant elle. La croûte du rôti lui sembla la plus savoureuse qu'elle eût jamais goûtée. Elle craquait sous la dent. Le beurre nouveau fondait sur la mie encore chaude. Elle recueillit la confiture acidulée avec des bouts de pain.
Rassasiée, elle prit conscience de l'agitation qui régnait autour d'elle. Elle promena autour de la pièce jadis familière un regard neuf. Quand elle était enfant, la cuisine qu'elle n'avait jamais eu la permission d'explorer librement lui paraissait immense et fascinante. Parce qu'elle était partie en mer avec son père sans avoir eu le temps de satisfaire sa curiosité, la pièce avait gardé pour elle son aura d'interdit. Aujourd'hui, elle la voyait telle qu'elle était vraiment. Un vaste espace de travail animé, sur lequel la cuisinière régnait en maître, où les serviteurs entraient et sortaient en rapportant inévitablement ce qui se passait au salon. Ils parlaient avec familiarité, avec mépris parfois, des gens qu'ils servaient.
« Il me faut un autre plateau de feuilleté à la saucisse. Le marchand, chemise voyante, a l'air de croire qu'on les a fait rien que pour lui. »«
C'est déjà mieux que la fille Orpelle. Regarde-moi cette assiette. On a cuisiné toute la matinée, elle s'est remplie une assiette, il y a à peine touché, l'a écartée. Elle espère peut-être qu'un homme va remarquer son appétit capricieux et penser qu'elle est facile à nourrir. »«
Comment se comporte le second choix de l'impératrice ?»
demanda la cuisinière avec curiosité. Un serviteur fit mine de porter un verre à vin à sa bouche.
« Oh, il noie son chagrin, montre les dents à son rival et regarde la petite impératrice en soupirant. Puis il recommence. Tout ça avec beaucoup de distinction, bien sûr. Il devrait faire du théâtre. »«
C'est plutôt elle qui devrait faire du théâtre. Elle minaude devant le voile de Reine, mais quand elle danse avec lui, elle bat des cils vers le jeune Trell. »
La servante qui venait de parler ajouta avec un reniflement de dégoût
« Ils font ces quatre volontés, mais je parie qu'elle se moquait perdument de l'un comme de l'autre. Elle ne s'intéresse qu'à ce qu'elle pourrait en tirer. »
Althea écoutait d'abord avec amusement. Puis, ses oreilles et ses joues commencèrent à chauffer quand elle se rendit compte que les domestiques parlaient ainsi de sa famille. Elle rentra la tête dans les épaules, garda les yeux baissés sur son assiette, et se mit peu à peu à reconstituer, grâce aux bribes des commérages, une image bizarre de la situation actuelle de la famille Vestrit. Sa mère recevait des hôtes du désert des pluies.
Fait plutôt rare, puisque son père avait rompu toute relation commerciale avec eux voici des années. Un prétendant du désert des pluies faisait la cour à une fille de marchand. Et les domestiques ne paraissaient pas tenir cette dernière en haute estime.
Elle lui ferait plus de sourire s'il remplaçait son voile par un miroir,
fit remarquer un serviteur en ricanant. Un autre ajouta.
Je me demande lequel des deux sera le plus surpris pendant la nuit de noces. Elle, quand il retirera son voile et lui montrera ses verrues, ou lui, quand elle lui dévoilera la nature de serpent qui se cache sous son joli visage.
Althea fronça les sourcils en essayant de deviner de qui il s'agissait. En tout cas, une femme assez proche des Vestrites pour que sa mère ait organisé une réception en son honneur. Peut-être une amie de Kefria qui avait une fille en âge de se marier.
Une fille de cuisine lui retira l'assiette vide des mains et lui tendit deux beignets sucrés dans une coupelle.
« Tiens, tu peux manger ça, on en a fait beaucoup trop. Il en reste trois plateaux et les invités commencent à s'en aller. »
Pas de raison qu'un jeune homme comme toi reparte le ventre vide. Elle lui sourit avec chaleur et Althea détourna les yeux en feignant une timidité qu'elle espérait convaincante.
Puis-je remettre mon message à Aronika Vestrite bientôt ?
Demanda-t-elle.
Oh, bientôt, je crois, très bientôt.
Les beignets fondants n'étaient pas commodes à manger, mais délicieux. Althea les avala, rendit la coupelle et prit prétexte de ses doigts poisseux pour retourner à la pompe. Une vigne séparait la cour de la cuisine de l'entrée principale, mais à travers les tiges volubiles et les petites feuilles nouvelles, elle put observer le départ des voitures. Elle reconnut Serwin Trell et sa petite sœur ainsi que la famille Chouyev. En identifiant d'autres familles de marchands grâce à leurs armoiries, elle prit alors conscience qu'elle ne faisait plus partie de cette société depuis bien longtemps. Les voitures s'en allaient les unes après les autres. Davad Restart fut un des derniers à partir. Peu de temps après, arriva une voiture du désert des pluies attelée de chevaux blancs. Les vitres étaient voilées de lourds rideaux et les armes sur la portière lui étaient inconnues. On aurait dit un poulet coiffé d'un chapeau. Une charrette venait derrière qu'un tas de serviteurs se mirent à charger de bagages et de malles. Donc, des marchands du désert des pluies avaient logé chez les Vestrites. Voilà qui était de plus en plus mystérieux. Althea avait beau se dévisser le cou, elle ne fit qu'entrevoir la famille qui s'en allait. Les habitants du désert des pluies étaient toujours voilés, et ceux-ci ne faisaient pas exception. Qui étaient-ils ? Pourquoi était-il en visite chez les Vestrites ? Althea était troublée. Kyle avait-il décidé de renouer des relations commerciales avec eux ? Sa mère et sa sœur l'avaient-elles encouragé dans cette voie ? Kyle avait-il entraîné Vivacia sur le fleuve des pluies ? Elle serra les poings. Quand la servante la tira par la manche, elle se retourna si brusquement qu'elle fit sursauter la pauvre fille.
« Je vous demande pardon !» dit-elle aussitôt.
La servante la regarda étrangement.
« Maîtresse Vestrite va vous recevoir. »
Althea se laissa conduire dans sa propre maison le long du couloir familier qui menait au salon. Partout se remarquaient les traces de la fête achevée et de la joyeuse compagnie. Dans chaque alcôve, des fleurs embaumaient. Elle avait quitté une maison en deuil, déchirée par des disputes de famille. Maintenant, il semblait bien qu'on eût oublié ses jours pénibles et Althea par la même occasion. Pendant qu'elle s'échinait au travail, qu'elle traversait de dures épreuves, sa mère et sa sœur s'amusaient et faisaient la fête. Cela lui parut injuste. Quand elles parvinrent au salon, le désarroi qui couvait en elle était tel qu'elle se raidit pour ne pas exploser de colère. La servante frappa à la porte. Quand elle entendit le murmure de Ronika, elle s'effaça.
« Entrez !» souffla-t-elle à Althea.
Celle-ci esquissa une révérence puis pénétra dans la pièce. Elle referma doucement la porte derrière elle. Sa mère était assise sur un divan jonché de coussins, un verre de vin posé sur une table basse à portée de main. Elle était vêtue d'une simple robe de lin beige.
Ses cheveux étaient enroulés en chignon et parfumés. Une chaîne d'argent ornait sa gorge. Mais le visage qu'elle leva sur sa fille était tendu et là. Elle écarquilla les yeux et Althea se força à la regarder en face.
« Je suis rentrée à la maison, »
dit-elle à mi-voix.
« Althea !»
s'exclama sa mère avec un hoquet de surprise. Elle porta une main à son cœur puis à sa bouche. Elle était devenue si pâle que ses rides semblaient comme gravées à l'eau forte. Elle balbutia d'une voix tremblante.
« Sais-tu combien de nuits j'ai passé à me demander si tu étais morte, où gisait ton corps, s'il était enseveli décemment, ou si des charognards t'avaient dévoré ?»
Althea fut décontenancée par le flot de paroles et la virulence du ton.
« J'ai essayé de t'envoyer un mot. »
Elle s'entendit mentir comme un enfant surpris à faire une bêtise. Ronica, qui avait trouvé la force de se lever, s'avançait vers sa fille, le doigt pointé sur elle comme une pique.
« Non, ce n'est pas vrai !»
la contredit-elle avec amertume.
« Tu n'y as même pas pensé jusqu'à aujourd'hui !»
Elle s'interrompit net, puis secoua la tête.
« Tu ressembles tellement à ton père, je l'entends mentir par ta bouche. Oh, Althea, oh, ma petite fille !»
Alors sa mère l'étreignit comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Althea demeura clouée entre ses bras. Complètement stupéfiée, puis glacée quand elle la sentit secouée par un sanglot. Ronica s'agrippait à elle et pleurait désespérément sur son épaule.
« Je suis désolée, » fit Althea mal à l'aise. « Ça va aller maintenant. »
Au bout d'un instant, elle demanda
« Qu'y a-t-il ?»
Sa mère ne répondit pas tout de suite. Elle prit une inspiration sifflante, s'écarta et se frotta les yeux avec sa manche comme une enfant, en étalant distraitement le fard de ses cils et ses paupières. Elle revint au divan d'un pas vacillant et s'assit. Elle but une longue gorgée de vin, reposa le verre et essaya de sourire. Son visage barbouillé de fard lui donnait l'air d'une déterrée.
« Rien ne va, »
dit-elle à mi-voix.
« Tout va mal. » À part une chose, tu es à la maison et en vie.
Le soulagement sincère qu'Althea lisait sur le visage de sa mère était plus brûlant que sa colère de tout à l'heure. Il lui fut pénible de traverser la pièce pour venir s'asseoir à un bout du divan. Plus pénible encore de déclarer, calmement et posément, «
Raconte-moi. »
Des mois durant, elle avait imaginé son retour à la maison. Elle avait été si impatiente de narrer son histoire, de forcer sa famille à l'entendre enfin. Maintenant, elle était là, et elle savait avec la certitude absolue d'une révélation qu'elle devait d'abord écouter sa mère. Durant un moment, Ronica se contenta de la regarder. Puis elle se mit à relater à mots précipités, confus, l'histoire de leur malheur. La Vivacia tardait à rentrer au port, depuis le temps elle aurait dû être déjà de retour. Kyle avait peut-être poursuivi sa route jusqu'en Calcède pour vendre les esclaves, mais il aurait certainement donné de ses nouvelles par l'intermédiaire d'un autre navire, non? Il connaissait le piteux état de leurs finances, il aurait envoyé un mot afin que Kefria pût rassurer leurs créanciers. Malta n'avait fait que des bêtises. Ronica ne savait même pas par quoi commencer son récit, mais le résultat en était qu'un marchand du désert des pluies lui faisait la cour. Et comme sa famille détenait la reconnaissance de dette de Vivacia, la courtoisie et la diplomatie exigeaient que les Vestrites le reçoivent, lui et sa suite, bien que, ça le savait, Malta soit trop jeune pour être courtisée. En outre, Davad Restart s'était précipité dans la mêlée et, déterminé à tirer profit de l'affaire, il avait fait gaffe sur gaffe tout au long de la semaine. Qu'il soit absolument dénué de tact ne signifiait pas qu'il n'avait pas de tactique. Elle avait dû déployer des trésors d'ingéniosité pour l'écarter et éviter que la famille de Reyn ne prît ombrage. Kefria insistait pour diriger les affaires de la maison. C'était son droit, certes, mais elle n'y prêtait pas suffisamment d'attention. Elle était empêtrée dans les fleurs et les froufrous de cette cour, et peu lui importait que les champs fussent à moitié labourés
alors que la période de plantation débutait dans une semaine. Un gel tardif avait détruit la moitié, au moins, des fleurs de pommier. Le toit, dans l'aile ouest, commençait à fuir, et il n'y avait pas d'argent pour le réparer. Mais si on ne le réparait pas bientôt, le plafond tout entier céderait et...
« Mère, » dit Althea doucement. « Mère, une minute, j'en ai la tête qui tourne. »«
Moi aussi, et depuis plus longtemps que toi, » répliqua Ronica avec lassitude.
« Je ne comprends pas, »
reprit Althea qui s'efforçait au calme, alors qu'elle avait envie de hurler.
« Kyle utilise la vivacia pour transporter des esclaves ? Et Malta est pratiquement vendue aux marchands du désert des pluies pour rembourser notre dette de famille ? Comment Kefria peut-elle le tolérer sans parler de toi ? Même si la vivacia n'est pas encore de retour, pourquoi nos finances sont-elles si basses ? Les propriétés de la côte n'étaient-elles pas d'un bon rapport ?»
Ronica faisait de petits gestes apaisants.
« Calme-toi, c'est un choc pour toi, j'imagine. J'ai vu les choses aller peu à peu à la dérive, mais toi, tu nous vois qui avons touché le fond. »
Elle pressa ses tempes, puis regarda sa fille d'un air absent.
« Comment allons-nous faire pour t'habiller correctement sans piquer la curiosité des domestiques ? »
fit-elle songeuse. Puis elle soupira.
« Rien que le fait de te parler de tout ceci m'épuise. C'est un peu comme de décrire la mort d'un être cher. Je t'épargne les détails, je ne te dirai qu'une chose. L'emploi des esclaves pour les récoltes dans les champs et les vergers en Calcède et même à Terrilleville a fait baisser les prix. Nous avons toujours engagé des saisonniers. Pendant des années, ce sont les mêmes qui ont labouré, semé et récolté pour nous. Maintenant, qu'allons-nous leur dire ? Il serait plus avantageux de laisser les champs en friche ou d'y faire paître des chèvres. Mais comment pouvons-nous faire cela à nos fermiers ? Alors, on continue de lutter. Ou plutôt, Kefria continue de lutter sur mon ordre. Elle prête l'oreille à mes conseils. Kyle, comme tu le sais, commande le navire. J'ai eu tort. Et je ne peux plus te regarder en face à cause de cela. Mais que ça me vienne en aide. Althea, je crains que ce ne soit lui qui ait raison. Si le transport d'esclaves réussit, la vive nef peut encore tous nous sauver. Les esclaves, apparemment, restent le seul moyen de s'enrichir. Des esclaves comme cargaison, des esclaves dans les champs.
Althea regardait sa mère, incrédule.
Je n'en crois pas mes oreilles. C'est toi qui parles ainsi ?
Je sais que c'est mal, Althea. Je sais. Mais quel choix avons-nous ? Laisser la petite Malta s'engager inconsidérément dans un mariage pour lequel elle n'est pas prête seulement pour renflouer la famille ? Rendre la vivacia au désert des pluies parce que nous ne pouvons acquitter la dette et vivre dans la misère ? Ou peut-être devrions-nous fuir nos créanciers, quitter Terrilleville et aller ça, c'est où ?
Tu as vraiment pensé à tout cela ?
Demanda Althea à voix basse.
Oui, répondit Ronica d'un ton las. Althea, si nous n'agissons pas, d'autres décideront de notre sort à notre place. Nos créanciers nous dépouilleront de tous nos biens, et alors, il se peut que nous regrettions en nous disant que si nous avions laissé Malta épouser Rain, nous lui aurions au moins épargné de connaître la pauvreté, et le navire nous aurait appartenu.
Le navire nous aurait appartenu ? Comment ça ?
Je te l'ai dit. Les Hoprous ont racheté la traite de Vivacia. Ils ont promis de remettre la dette, ce sera le cadeau de noces de Rain.
Mais c'est insensé,
déclara Althea d'une voix atone.
On ne fait pas de pareils cadeaux, pas même les marchands du désert des pluies.
Après une profonde inspiration, Ronica changea de sujet.
Il faut que tu gagnes ta chambre discrètement pour t'habiller correctement. Tu es maigre comme un clou. Je me demande si tes anciens vêtements t'iront encore.
Je ne peux pas encore redevenir Altea Vestrit. Je t'apporte un message du capitaine Ténira, de la vive nef Ophélie.
Alors c'est vrai? J'ai cru qu'il s'agissait d'une ruse pour me voir.
C'est vrai. J'ai navigué à bord de l'Ophélie. Quand nous aurons le temps, je te raconterai tout cela. Mais pour l'instant, je veux te transmettre le message et rapporter ta réponse. Mère, l'Ophélie est retenue au quai des taxes. Le capitaine Ténira a refusé de payer les sommes scandaleuses qu'on lui a réclamées, surtout celles instaurées pour financer ses ports de Chalcédiens.
« Des ports Chalcédiens ?»
demanda sa mère d'un air d'incompréhension. « Tu vois certainement de quoi je veux parler. Le gouverneur a autorisé des galères chalcédiennes à patrouiller le long de la passe intérieure. L'une d'elles a tenté de nous arraisonner et de nous aborder. Ils ne sont que des pirates et pires que ceux qu'ils sont censés éliminer. Je n'arrive pas à comprendre qu'on les ait tolérés dans le port, et encore moins que vous ayez accepté sans sourciller de payer des droits supplémentaires. »
« Oh, les galères! Elles ont fait grand bruit ces derniers temps. Mais je pense que Ténira est le premier à avoir refusé de payer. Juste ou non, les marchands ont acquitté les droits. Sinon, fini le commerce. Ténira ne va pas tarder à le constater.
Mère, c'est ridicule. Il s'agit de notre ville. Pourquoi ne nous dressons-nous pas contre le gouverneur et ses valets? Ils ne respectent plus sa parole. Pourquoi continuerions-nous à le laisser nous saigner à blanc?
Altea, je n'ai plus suffisamment d'énergie pour réfléchir à tout cela. Je ne doute pas que tu aies raison, mais que puis-je y faire? J'ai ma famille à protéger. Terrilville doit veiller à ses propres intérêts.
Mère, on ne peut pas raisonner ainsi. Greg et moi en avons beaucoup discuté. Terrilville doit se dresser unie face aux nouveaux marchands, au gouverneur et à Jamelia, si besoin est. Plus on leur cède, plus ils prennent. Les esclaves que les nouveaux marchands ont amenés ici sont à l'origine de nos soucis familiaux à l'heure actuelle. Il faut les contraindre à respecter nos anciennes lois interdisant l'esclavage. Il faut déclarer aux nouveaux marchands que nous ne reconnaissons pas leur charte. Il faut dire au gouverneur que nous ne paierons plus d'impôts jusqu'à ce qu'ils reviennent à la lettre de notre charte familiale. Non, il faut aller plus loin. Il faut lui annoncer que les taxes de 50% sur nos marchandises, ainsi que les limites imposées au-delà desquelles nous ne pouvons plus les vendre, appartiennent désormais au passé. Nous n'avons déjà que trop laissé aller les choses. À présent, il faut s'unir pour mettre un terme à tout ceci.
Il y a certains marchands qui parlent comme toi, confia sa mère lentement. Et je leur réponds comme à toi, ma famille d'abord. Du reste, que puis-je faire?
Déclarer simplement que tu es d'accord avec les marchands qui refusent les taxes, c'est tout ce que je te demande.
Alors tu dois t'adresser à ta sœur. C'est elle qui a la voix maintenant, pas moi. À la mort de ton père, elle a hérité. C'est elle désormais la marchande et c'est à elle de voter au conseil.
Comment crois-tu qu'elle va réagir?
Interrogea Altea après un long silence. Il lui avait fallu un certain temps pour assimiler la pleine importance des paroles de sa mère.
« Je ne sais pas. Elle ne va pas souvent aux réunions de marchands. Elle dit qu'elle est trop occupée et qu'elle ne veut pas se prononcer sur des questions qu'elle n'a pas eu le temps d'étudier. »
« Tu lui as parlé? Tu lui as signalé à quel point ses votes étaient importants ?»«
Ce n'est qu'une voix, » dit Ronica avec entêtement.
Altea crut discerner un soupçon de sentiment de culpabilité dans l'intonation de sa mère. Elle insista.
« Laisse-moi retourner auprès du capitaine pour lui confirmer au moins ceci. Que tu vas parler à Kefria, lui conseiller d'assister à la prochaine réunion de marchands et de voter le soutien à Ténira. Il a l'intention de s'y rendre et d'exiger officiellement du conseil qu'il se range à ses côtés. »
« Je crois que je peux à la rigueur faire cela. »
Altea. Tu n'as pas besoin de rapporter toi-même le message. S'il défie ouvertement le ministre des taxes, il peut provoquer du mouvement là-bas.
Je vais demander à Rack d'envoyer un garçon de course qui transmettra ton mot. Inutile que tu te retrouves mêlé à cette affaire.
Mère, je désire être mêlé à cette affaire. Et je veux qu'ils sachent que je suis à leur côté. Il faut que j'y aille moi-même. Je le sens.
Mais pas maintenant. Althea, tu viens seulement de rentrer à la maison. Tu peux tout de même prendre le temps de manger, de te baigner et de te changer,
dit Ronica atterrée. Non. Je suis plus en sûreté sur les quais vêtue ainsi. Les gardes ne prêteront aucune attention aux allées et venues d'un mousse. Laisse-moi y retourner et... Il y a encore quelqu'un que je dois aller voir. Mais tout de suite après, je reviendrai. Je te promets que d'ici demain matin, je serai sous notre toit, habillé comme il sied à une fille de marchand.
Tu vas rester dehors toute la nuit, seul?
Tu préférais que je sois avec quelqu'un? Demanda Althea malicieusement, puis avec un sourire désarmant.
Mère, je suis restée dehors toute la nuit pendant presque un an. Il ne m'est rien arrivé. Du moins, rien d'irrémédiable. Mais je promets de tout te détailler à mon retour. Je vois que je ne peux t'en empêcher, dit Ronica résignée. Eh bien, pour l'honneur de ton père, tâche que personne ne te reconnaisse, je t'en prie. La fortune de la famille est assez ébranlée sans cela. Sois discrète et demande aussi au capitaine Ténira d'être discret. Tu as servi à bord de son navire, tu disais?
Oui, je te raconterai. Plus tôt je serai parti, plus tôt je serai de retour. Elle se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Peux-tu prévenir ma sœur que je suis rentrée et que je désire lui parler sérieusement?
Entendu. Tu as l'intention de... Eh bien, non de t'excuser, mais de conclure une trêve avec Kyle et ta sœur?
Althea serra les paupières, puis rouvrit les yeux. Elle déclara avec calme «
Mère, j'ai l'intention de récupérer mon navire. Je vais tâcher de vous faire comprendre à toutes les deux que je suis prête et que non seulement il m'appartient de plein droit, mais que je peux grâce à lui procurer de bons bénéfices à la famille. Je ne veux rien ajouter de plus maintenant. Ne lui répète pas cela, je t'en prie. Dis-lui simplement, s'il te plaît, que je désire lui parler sérieusement. Très sérieusement. »
Ronica secoua la tête. Les rides sur son front et autour de sa bouche parurent se creuser davantage. Elle avala encore un peu de vin, sans le savourer.
« Fais attention, Althea, et reviens vite. Ton retour nous apportera-t-il le salut ou le malheur, je l'ignore. Je sais seulement que je suis heureuse que tu sois en vie. »
Althea hocha la tête avec brusquerie et se glissa silencieusement hors de la pièce. Elle ne reprit pas le chemin de l'allée, mais sortit par la porte d'entrée. Elle fit un signe au serviteur qui balayait des pétales de fleurs sur le perron. Les jacinthes massées sur les marches exhalaient des vagues de parfums. En descendant l'allée d'un pas vif, elle regretta presque de n'être pas simplement attelée le mousse. C'était une splendide journée de printemps. Son premier jour à terre dans son port d'attache depuis un an. Si elle avait pu en profiter un peu. Comme elle se hâtait le long des chemins sinueux qui descendaient vers Terrilleville, elle remarqua que la propriété des Vestrites n'était pas la seule à trahir des signes de dégradation. Plusieurs belles résidences témoignaient du manque d'entretien dû à une bourse vide. Les arbres n'étaient pas taillés et les dégâts occasionnés par les vents d'hiver n'étaient pas réparés. Quand elle traversa les rues les plus animées du quartier du marché, il lui sembla croiser nombre de gens inconnus. Elle s'était si souvent absentée de Terrilleville durant ces 10 dernières années qu'elle ne s'attendait pas à reconnaître beaucoup de voisins ou d'amis. Mais ces étrangers avaient l'accent de Jamélia. Ils étaient vêtus à la mode chalcédienne. Les hommes paraissaient tous jeunes, de 20 à 30 ans. Ils portaient de larges épées au fourreau filigrané et leur bourse à la ceinture, comme pour étaler leur fortune. Quant aux femmes, dont les somptueuses jupes à traîne et à crever laissaient entrevoir des jupons vaporeux, elles étaient outrageusement fardées. Les hommes avaient tendance à parler haut, comme pour attirer l'attention et sur un ton arrogant, suffisant. Leurs femmes trop parfumées, avec d'immenses anneaux aux oreilles, avaient des allures de pouliches nerveuses. Elles agitaient la tête, faisaient de grands gestes en discutant et se pavanaient. À côté d'elle,
les courtisanes de Terrilville faisaient figure de pigeons ternes. Une deuxième classe d'inconnus hantait les rues. Ils arboraient des tatouages d'esclaves près du nez. Leur démarche furtive disait assez qu'ils voulaient passer inaperçus. Les serviteurs s'étaient multipliés à Terrilville. Ils portaient des paquets, gardaient les chevaux. Un garçon qui suivait deux jeunes filles à peine plus âgées que lui s'évertuait à tenir au-dessus d'elles une ombrelle pour les protéger du doux soleil printanier. Quand la cadette le souffleta et le tensa vertement parce qu'il bougeait l'ombrelle, Althea réprima son envie de la gifler à son tour. Le gamin était beaucoup trop jeune pour trembler ainsi avec tant de déférence devant ses deux pécores. Il marchait pieds nus sur les pavés froids. C'est à briser le cœur si on s'écoutait. Mais ces deux-là, on les a dressés à n'avoir pas de cœur. Althea sursauta en entendant la voix basse à son oreille. Elle fit volte-face et découvrit Ambre à un pas derrière elle. Leurs regards se croisèrent et son amie haussa le sourcil d'un air entendu. D'un ton hautain, elle proposa
« Je te donne un sou, Mousse, si tu me portes mon bois. »«
À votre service, » répondit Althea en inclinant la tête pour saluer comme un marin.
Elle prit le gros fagot de bois brut des bras d'Ambre et le trouva beaucoup plus lourd qu'elle n'aurait cru. Comme elle assurait sa prise, elle surprit l'étincelle de joie dans les yeux topazes. Elle adopta une allure pleine de respect, à deux pas derrière Ambre, et la suivit à travers le marché jusqu'à la rue du désert des pluies. Ici aussi, les choses avaient changé. Quelques boutiques employaient déjà des veilleurs de nuit et une ou deux étaient même gardées durant la journée. À présent, presque toutes les échoppes s'enorgueillissaient d'un portier patibulaire armé d'une épée courte ou d'un long poignard à la hanche. On n'ouvrait plus les portes et on n'exposait plus dehors la marchandise sur des tréteaux ou des étagères. Les articles raffinés et quasiment magiques importés du désert des pluies n'étaient plus visibles qu'à travers des fenêtres à barreaux. Althea regretta les effluves de parfums, le tintement des clochettes à vent et l'arôme des épices rares apportées par la brise. Les boutiques et la rue étaient aussi animées que de coutume, mais on devinait chez les commerçants et les chalands une prudente méfiance, fort désagréable à constater. Même la boutique d'Ambre avait un garde posté devant la porte fermée à clé. C'était une jeune femme, aux longs cheveux blonds retenus en queue de cheval, vêtue d'un juste au corps en cuir, qui jonglait nonchalamment avec deux matraques et une petite pioche en attendant que sa maîtresse ouvrît la porte. Elle sourit de toutes ses dents à Althea, qui passa près d'elle, mal à l'aise. La jeune femme avait le regard d'un gros matou qui jauge un rat bien gras.
« Attends dehors, Jake. Je ne vais pas ouvrir le magasin tout de suite. » lui dit Ambre laconiquement.
« Comme il vous plaira, maîtresse. »
répondit Jake d'une voix à l'accent étranger. Elle décocha à Althea un coup d'œil inquisiteur en reculant prudemment vers la porte qu'elle referma derrière elle.
« Où l'as-tu trouvé ? »
demanda Althea incrédule.
« C'est une vieille amie. Elle va être déçue quand elle découvrira que tu es une femme.
Et elle va le découvrir. Rien n'échappe à Jake.
Mais il n'y a aucun risque qu'elle trahisse ton secret. Elle est muette comme la tombe. Elle voit tout, ne dit rien. La servante modèle.
C'est drôle. Je n'aurais jamais cru que tu puisses avoir des serviteurs.
J'aimerais mieux ne pas en avoir, mais malheureusement, un gardien pour la boutique est devenu nécessaire. J'ai décidé de vivre autre part. Et avec l'augmentation des brigandages à Terrilville, j'ai dû engager quelqu'un pour surveiller la boutique la nuit. Jake avait besoin d'un logement. L'arrangement fonctionne à merveille.
Elle débarrassa Althea de son fagot qu'elle déposa dans un coin. Puis, à la surprise de son amie, elle la prit par les épaules et l'écarta à bout de bras.
« Tu fais vraiment un jeune homme charmant. Je comprends que Jake t'ait guigné de l'œil. »
Elle l'étreignit avec chaleur. En la lâchant, elle ajouta
« Je suis si contente que tu sois revenue saine et sauve. J'ai souvent pensé à toi.
et je me demandais comment tu allais. Viens dans l'arrière-boutique. Je vais faire de la tisane et nous pourrons bavarder. »
Tout en parlant, elle montrait le chemin. L'arrière-boutique était restée comme dans le souvenir d'Althea. Une grotte encombrée d'établis, d'outils éparpillés et de breloques en cours de fabrication. Des vêtements pendaient à des crochets ou étaient bien serrés dans des malles. Il y avait un lit dans un coin et une paillasse dans un autre. Un petit feu brûlait dans l'âtre.
« J'aurais pris une tisane avec plaisir, mais je n'ai pas le temps. En tout cas, pas maintenant. J'ai un message à transmettre. Mais dès que ce sera réglé, je repasse directement ici. J'en avais l'intention avant que tu me repères dans la rue. »
« C'est très important pour moi que tu reviennes. » insista son ami avec une telle gravité qu'Althea la dévisagea. En réponse à ce regard, Ambre ajouta «
Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer rapidement. »
Bien que sa curiosité fût piquée, Althea était trop préoccupée par ses propres soucis.
« Moi aussi, j'ai besoin de te parler seul à seul. C'est une affaire délicate. Peut-être n'ai-je pas le droit de m'en mêler, mais elle est... »
Elle hésita.
« C'est sans doute le moment maintenant, même si je n'en ai pas encore discuté avec le capitaine Ténira. »
Elle s'interrompit, puis se lança.
« J'ai servi à bord de la vive nef Ophélie. Elle a été blessée, et j'espère que tu peux l'aider. Une galère chalcédienne nous a interceptés quand nous faisions voile vers Terrilville. Ophélie s'est brûlée les mains en se défendant. Elle dit qu'elle n'a pas mal, mais on dirait qu'elle garde toujours les mains croisées ou qu'elle les cache. Je ne sais pas si les dégâts sont importants, si un ébéniste comme toi peut réparer du bois brûlé, mais... »
« Intercepté par une galère ? Et attaqué ?»
s'exclama Ambre, horrifié.
« Dans les eaux de la passe intérieure ?»
Le regard perdu dans un autre temps et un autre espace, elle dit d'une voix étrange
« La fatalité fond sur nous. Le temps s'étire, les jours se suivent pesamment, en nous berçant de l'illusion que le désastre redouté va être différé. Puis, brusquement, les jours sombres que nous avons tous prédits sont sur nous, et l'heure est passée où nous aurions pu éviter le sort funeste. Jusqu'à quel âge faut-il vivre pour tirer des leçons de ces expériences? Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons jamais eu le temps. Il se peut que demain n'arrive jamais, mais le présent forme une chaîne inexorable, et maintenant est toujours l'unique moment dont nous disposons pour détourner le malheur. »
Althea se sentit soudain confirmée dans ses craintes. C'était la réaction qu'elle avait espérée de sa mère. Chose curieuse, c'est une nouvelle venue, non un marchand de Terrilville, qui avait immédiatement saisi toute l'importance des nouvelles qu'elle apportait. Ambre avait complètement oublié la tisane. Elle ouvrit brusquement un coffre dans un coin de la pièce et, au comble de l'excitation, elle commença à en tirer des vêtements.
« Accorde-moi quelques instants, et je serai prête à t'accompagner. Mais ne perdons pas une minute. Commence à partir du jour de ton départ, et raconte-moi tes voyages en détail, même ce qui te paraît insignifiant. »
Elle alla vers une petite table, ouvrit une boîte dont elle vérifia rapidement le contenu, des pots et des brosses, puis la fourra sous son bras. Althea ne put s'empêcher de rire.
« Ambre, cela va prendre des heures, non, des jours. C'est pour ça que nous devons commencer maintenant. Allez, vas-y pendant que je me change. »
Elle roula en boule une brassée de vêtements et disparut derrière un paravent en bois. Althea se lança dans le récit de ses expériences à bord du moissonneur. Elle venait à peine de relater ses premiers mois malheureux et la découverte de son secret par Brachen, que son amie émergea de derrière le paravent. Mais ce n'était pas Ambre qui se tenait devant elle. C'était une petite esclave à la figure toute barbouillée. Un tatouage couvrait une joue rougie par le vent, une croûte s'étalait de sa lèvre supérieure à sa narine gauche, ses cheveux sales s'échappaient d'une tresse défaite. Elle portait une chemise en coton grossier, et ses pieds nus pointaient sous ses jupes rapiécées. Un pansement souillé enveloppait sa cheville. Des gants de toile rêche remplaçaient ceux en dentelle qu'elle enfilait d'habitude. Elle étala sur la table
un sac fourre-tout en toile malpropre et le bourra d'outils à bois.
« Tu me stupéfies. Comment as-tu appris à faire ça ?»
demanda Althea avec un grand sourire. « Je te l'ai dit. J'ai joué beaucoup de rôles dans ma vie. Ce déguisement s'est révélé très utile ces derniers temps. Les esclaves sont invisibles. Je peux aller quasiment partout sans qu'on me remarque. Même les hommes qui n'hésiteraient pas à forcer une esclave sont dégoûtés par un peu de saleté et quelques croûtes bien placées.
Les rues de Terrilleville sont devenues à ce point dangereuses pour une femme seule ?
Ambre lui décocha un regard de commisération.
Tu vois ce qui se passe et pourtant tu ne vois rien. Les esclaves ne sont pas des femmes, Althea. Elles sont de la marchandise, des objets, des biens, des choses. Pourquoi un propriétaire se soucierait-il qu'une de ses esclaves soit violée ? Si elle est enceinte, il en prendra une autre. Si elle ne l'est pas, eh bien, où est le mal ? Ce gamin que tu observais, cela ne coûte rien à son maître s'il s'endort tous les soirs en pleurant, s'il reçoit des coups. S'il devient rétif et indocile à cause des mauvais traitements, il sera simplement revendu à quelqu'un qui le traitera plus mal encore. Les derniers barreaux de l'échelle deviennent très glissants quand on accepte l'esclavage. Si une vie peut être évaluée en argent, alors sa valeur peut baisser, sou par sou, jusqu'à ce qu'elle soit nulle. Quand une vieille femme vaut moins que la nourriture qu'elle mange, eh bien...
Ambre poussa un bref soupir, puis elle se redressa brusquement.
« On n'a pas le temps. »
Elle se pencha pour se regarder dans un miroir posé sur la table, puis saisit un foulard en lambeaux qu'elle noua sur la tête en dissimulant ses boucles d'oreilles. Le sac à outils disparut dans un panier à provisions.
« Voilà, allons-y. On va se faufiler par derrière. Dans la rue, prends mon bras, penche-toi et reluque-moi comme un vilain matelot. » Nous pourrons parler en chemin. »
À la stupéfaction d'Althea, la ruse réussit. Ceux qui les remarquaient se détournaient, dégoûtés. Elle poursuivit le récit de son voyage. À une ou deux reprises, Ambre émit de petits bruits, comme si elle voulait l'interrompre, mais quand son amie se taisait, elle la pressait de continuer.
« Non, vas-y. Quand tu auras fini, je poserai mes questions. »
Personne ne l'avait jamais écoutée aussi attentivement, absorbant ses paroles comme une éponge. Quand elles approchèrent des quais des taxes, Ambre attira Althea dans un coin.
« Comment vas-tu me présenter sur le navire ?»«
Tu vas devoir me suivre à bord. Je n'en ai pas encore discuté avec le capitaine Ténira. »
Elle fronça les sourcils en comprenant soudain que la situation pouvait se révéler embarrassante.
« Il faudra que tu voies le capitaine Ténira et Grag avant que je te conduise près d'Ophélie. »
« Franchement, je ne sais pas comment ils réagiront face à toi, ni comment ils prendront le fait qu'une étrangère travaille sur leur navire. »«
Fais-moi confiance. Je peux être charmante quand c'est nécessaire. »« Et maintenant, en avant !»
Althea gravit sans encombre la passerelle. Elle jeta un regard furtif alentour, puis fit signe à Ambre d'avancer. Les deux gardes sur le quai la repérèrent aussitôt. L'un grimaça de dégoût, tandis que l'autre éclatait d'un rire plein de sous-entendus. Si le mousse faisait monter clandestinement sa catin à bord, ce n'était pas leur affaire. Le matelot de quart sur l'Ophélie leva un sourcil incrédule, mais, sur un signe d'Althea, il tint sa langue et les escorta jusqu'à la porte de la cabine du capitaine Ténira.
« Entrez !»
dit Ténira après qu'Althea eut frappé. Elle pénétra dans la pièce, Ambre sur ses talons. Le capitaine était à sa table, occupé à écrire, tandis que Grag regardait par le hublot.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda le capitaine, interdit, tandis que Grag grimaçait de dégoût.
« Ne vous fiez pas à mon apparence, capitaine !»
déclara Ambre avant qu'Althea ait pu proférer un son. Sa voix était si agréablement modulée, son accent si pur, que personne n'aurait pu en douter.
« Je vous prie d'excuser mon déguisement. Cela semblait plus prudent. Je suis une amie d'Althea depuis un certain temps déjà. Elle sait qu'on peut me faire confiance.
Elle m'a parlé de la fâcheuse rencontre que vous avez faite sur la route de Terrilleville. Je suis venu non seulement pour vous apporter mon soutien à propos des taxes, mais aussi voir si je peux réparer les mains abîmées d'Ophélie. »
D'une traite et tout uniment, elle avait exposé l'affaire qu'Althea aurait eu peine à expliquer sans trébucher sur les mots. Puis elle attendit calmement, les mains sagement croisées devant elle, le dos droit, les yeux plantés dans les yeux des deux hommes. Ils échangèrent un regard. Les premiers mots du capitaine bouleversèrent Althea. « Vous croyez vraiment pouvoir faire quelque chose pour les mains d'Ophélie ? Cela m'attriste de voir qu'elle en a honte. » La profonde émotion qui vibrait dans sa voix toucha le cœur d'Althea.
« Je ne sais pas, » répondit Ambre avec honnêteté. « Je connais mal le bois sorcier. Mon expérience limitée me dit que le grain en est excessivement fin. Mais il se peut que sa densité même l'ait préservé d'un dommage profond. Je ne le saurais qu'en examinant ses mains et encore.
« Alors allons voir, » déclara Ténira sur le champ, en adressant un regard presque contrit à Althea. « Je sais que vous m'apportez un message de votre mère. Ne croyez pas que je sous-estime son importance, mais Ophélie est mon navire.
Elle doit passer en premier, » approuva Althea. « C'était bien mon avis, aussi ai-je demandé à mon ami Ambre de m'accompagner. »«
Je vous reconnais bien là, » fit remarquer Grag avec chaleur.
Il poussa l'audace jusqu'à lui effleurer la main. Il esquissa un salut vers Ambre.
« Je suis honoré de faire la connaissance de tous ceux qu'Althea appelle ses amis. C'est pour moi la seule recommandation nécessaire. « Mon fils me rappelle aux bonnes manières. Pardonnez-moi, madame. Je suis le capitaine et marchand Tommy Ténira de la vive nef Ophélie, et voici mon fils, Grag. »
Althea se rendit brusquement compte qu'elle ignorait le nom de famille d'Ambre. Mais avant qu'elle ait eu le temps de bredouiller quelque chose, son ami déclara « Je suis Ambre, fabricante de perles, artisan dans la rue du désert des pluies. J'ai hâte de faire la connaissance de votre navire. »
Sans plus de cérémonie, le capitaine Ténira montra le chemin. Ophélie bouillait manifestement de curiosité. Elle toisa Ambre avec une réserve scandalisée qui amena sur les lèvres d'Althea un sourire involontaire. Dès qu'on lui eut expliqué la présence d'Ambre, la vive nef n'hésita pas à se tourner vers elle et à présenter ses mains brûlées pour examen.
« Vous croyez possible de faire quelque chose pour moi ?» demanda-t-elle avec gravité. Pour la première fois, Althea fut en mesure de constater les dégâts. La poix brûlante avait collé aux doigts. Les flammes avaient léché le creux du poignet gauche. Les mains d'aristocrate étaient à présent celles d'une fille de cuisine. Ambre prit la grande main de la vive nef. Elle promena légèrement ses doigts gantés sur la surface brûlée, puis frotta avec plus d'insistance. « Dites-moi si je vous fais mal, » ajouta-t-elle un peu tardivement. Elle fronçait les sourcils, absorbée. « Un bois des plus singuliers, » murmura-t-elle pour elle-même. Elle ouvrit son sac, choisit un outil, gratta légèrement un doigt noirci. Ophélie retint son souffle.
« Cela fait mal ?» demanda Ambre aussitôt.
« Je n'ai pas mal à la façon des humains, j'ai l'impression que ça ne va pas, comme si j'étais abîmée.
Je crois que le bois est intact juste sous la brûlure. Avec mes outils, j'arriverai à ôter la couche noircie. Il se peut que j'aie à modifier un peu la forme des mains. Vous auriez des doigts plus fins. Je conserverai les bonnes proportions, à moins que les dégâts soient plus profonds que je ne le pense. Mais vous devrez supporter cette sensation désagréable sans broncher pendant que je travaille. Je ne sais pas combien de temps cela prendra.
« Qu'en penses-tu, Tommy ? » demanda la vive nef à son capitaine.
« On n'a pas grand-chose à perdre, à mon avis, » dit-il avec douceur. « Si la gêne devient intolérable, alors maîtresse Ambre arrêtera, j'en suis certain. »
Ophélie sourit avec inquiétude. Puis ses yeux se firent songeurs.
Si votre travail sur mes mains réussit, alors peut-être pourriez-vous faire aussi quelque chose pour mes cheveux. »
Elle leva la main pour toucher les longues boucles souples de sa crinière.
« Cette coiffure est si démodée. Cela fait un certain temps que j'y pense. Si je pouvais trouver le moyen d'avoir des repentirs autour du visage et... »
« Oh, Ophélie !»
gronda Ténira tandis que les autres éclataient de rire. Ambre tenait toujours la main d'Ophélie et continuait à l'examiner, tête penchée.
« Il se peut que j'aie beaucoup de mal à assortir la nuance. Je n'ai jamais vu une teinte imitant si parfaitement la couleur de la chair tout en laissant apparent le grain du bois. On m'a dit qu'une vive nef créait ses propres couleurs en s'éveillant. »
Elle croisa hardiment le regard d'Ophélie.
« Cela peut-il se reproduire, si je suis obligé de creuser jusqu'à révéler un bois non coloré ?»«
Je ne sais pas, » répondit Ophélie à mi-voix.
« Cela ne se fera pas en une après-midi, » dit Ambre résolument. « Capitaine, il faut que vous donniez à vos hommes l'ordre de me laisser aller et venir. Je garderai le même déguisement. » Cela vous convient-il ?
Je crois, oui,
concéda le capitaine à contre-cœur.
Quoi qu'il puisse être difficile d'expliquer aux marchands pourquoi j'ai confié un travail si délicat à une esclave, ou pourquoi j'utilise les services d'une esclave tout court, je suis opposé à l'esclavage, vous savez.
Comme moi, répondit Ambre gravement. Comme beaucoup de gens dans cette ville.
Vraiment, rétorqua Ténira avec amertume. Je n'ai guère entendu de protestation publique là-dessus jusqu'ici.
Elle tapota son faux tatouage.
Si vous portiez ces haillons et ce tatouage, que vous arpentiez les rues de Terrilleville, vous entendriez critiquer âprement l'esclavage. Dans vos efforts pour tirer la ville de sa torpeur, ne négligez pas les alliés que vous avez en réserve. »
Elle choisit un petit rabot dans son sac et y ajouta une lame.
« Si, par exemple, on s'intéresse aux manigances domestiques du ministre des Taxes, on peut facilement trouver dans cette réserve des espions bien disposés. Le scribe chargé de sa correspondance est aussi un esclave, je crois. »
Althea sentit un petit frisson lui parcourir l'échine.
Comment Ambre en était-elle venue à connaître tout cela, et pourquoi s'en souciait-elle ?
Vous êtes bien au courant, on dirait,
fit remarquer le capitaine gravement.
Oh, j'ai connu ma part d'intrigues et de complots. Je les trouve déplaisants, mais nécessaires, comme la douleur est parfois nécessaire.
Elle fixa le rabot dans la paume d'Ophélie.
Tenez bon. Dit-elle à voix basse. « Je vais ôter la couche superficielle. »
Il y eut un petit silence, suivi d'un affreux grattement. Le bois carbonisé vola en poussière. L'odeur rappela à Althea celle de cheveux brûlés.
Ophélie émit un léger bruit, puis leva les yeux pour contempler la mer. Elle serrait les mâchoires.
Impassible, le capitaine Ténira observait le travail d'Ambre. Comme s'il s'enquérait de la pluie et du beau temps, il demanda à Althea
« Avez-vous transmis mon message à votre mère ?»«
Oui, »
déclara-t-elle en refoulant une émotion qui ressemblait fort à de la honte.
« Je suis désolée. La réponse que j'apporte n'est pas d'un grand réconfort. Ma mère va parler à ma sœur Kefria. C'est elle la marchande de la famille maintenant. » Ma mère va la convaincre d'assister à la prochaine réunion du conseil et de voter pour soutenir votre action.
« Je vois, »
répliqua Ténira d'une voix prudemment neutre.
« Si mon père était encore en vie, »
ajouta Althea d'un air malheureux.
« Et si c'était vous la marchande Vestrite ? En vérité, c'est vous qui auriez dû hériter du navire familial. »
Althea révéla alors sa profonde blessure.
Je ne sais pas si Kefria est capable de se ranger à vos côtés.
Un silence stupéfait accueillit ses paroles. Elle s'efforça de conserver une voix égale en ajoutant
Je ne vois guère comment elle pourrait prendre votre parti et continuer à soutenir son mari. L'augmentation des impôts est motivée par la protection du commerce par le gouverneur contre les pirates. Mais nous savons tous qu'il tient surtout au trafic d'esclaves. Il ne s'est jamais soucié des pirates jusqu'à ce qu'ils se mettent à attaquer les transports d'esclaves. Donc, si on en vient à discuter de l'esclavage et qu'elle doit adopter une position, elle... Kyle fait commerce d'esclaves et il utilise Vivacia. Je ne crois pas qu'elle s'opposera à son mari. Même quand elle était en désaccord avec lui, elle n'a jamais eu la volonté de lui tenir tête pour quoi que ce soit.
« Non !»
souffla Ophélie.
« Comment peut-on faire une chose pareille? Vivacia est si jeune. Comment va-t-elle le supporter ?»«
À quoi pensait ta mère pour avoir laissé faire? Comment peut-on infliger cela à son propre navire ?»
Greg et le capitaine gardèrent le silence. Le premier paraissait accablé, tandis que le second affichait un mépris glacial. La question resta suspendue en l'air comme une accusation.
« Je n'en sais rien, » répondit Althea à l'air malheureux. « Je n'en sais rien. »